Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Okapi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Okapi Service. Urgence du quotidien, premier geste en attendant d'emmener la victime dans une structure de santé ou en attendant les secours. Nous en parlons dans cette émission avec Roger Baka et Clément Tchota. Ils sont formateurs à la Croix-Rouge RDC. Bonjour messieurs, bienvenue dans ce studio de Radio Okapi.
Merci beaucoup.
Bonjour.
Alors, vous souhaitez participer à cette émission, chers auditeurs, enregistrez-vous au 085 42 11 547, 085 42 11 547, ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook Okapi Service. Jean-Claude Ntiala assure la mise en onde de cette émission, Meshak Moutamboutou et Esther Mamboté assurent le live hein, sur nos réseaux sociaux. La réalisation est signée Benjamin Moudoumbi sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. À l'animation, Jocelyne Moussaou.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Urgence du quotidien, des situations qui peuvent survenir à tout moment, à la maison, au travail, sur la route ou en milieu rural, où les structures de santé peuvent être éloignées. L'objectif aujourd'hui dans cette émission est simple, comprendre les bons gestes à poser en attendant d'emmener la victime dans une structure de santé. Vous avez des cas du quotidien, des cas fréquents du quotidien pour lesquels vous souhaitez avoir de réponses de nos invités. N'hésitez pas de composer notre numéro de téléphone. Je le rappelle, c'est le 085 42 11 547. 085 42 11 547. Nos invités aujourd'hui sont Roger Baka et Clément Tchota, formateurs à la Croix-Rouge RDC. Messieurs, nous allons entrer directement dans des cas concrets vécus par nos auditeurs. Commençons par une situation impressionnante mais fréquente.
Oui.
La crise d'épilepsie. Comment reconnaître une crise?
Le maître va parler. Parce que je commence par remercier d'abord notre président national, l'élite suprême Grégoire Matesso Mbutawai, son comité de direction et notre brave secrétaire général, Madame Gloria, qui travaille sous l'impulsion du comité de direction. Alors là, il ne ménage aucun effort pour actualiser le programme de formation, pour rendre tous les documents au standard international. Vraiment, c'est là où nous commençons par féliciter d'abord notre hiérarchie. Nous remercions tout ça. Alors, pour revenir à votre question, la crise d'épilepsie. Alors, les consignes, ce que nous savons, les signes. Vous savez, la personne, il y a de l'agitation d'abord.
Oui.
Il s'agite.
Brusquement.
Brusquement, il tombe. Et très souvent, nous n'intervenons pas. Le maître va compléter parce que j'ai oublié de vous dire que c'est le maître, tout ça.
Voilà, oui. Monsieur Clément Tchota, qui est aussi avec nous. Donc, nous sommes avec Monsieur Roger Baca et Monsieur Clément Tchota, qui sont formateurs. La formation des secouristes, hein, c'est pour apprendre des bons gestes. Alors, comment on reconnaît que quelqu'un qui est à la maison en train de convulser ou s'agite? Comment savoir, comment déterminer la crise, le type de crise? Est-ce que c'est de l'épilepsie? Est-ce qu'on réagit juste à un médicament qu'on aurait pris? Est-ce que, voilà, comment on reconnaît ces crises-là?
Bon, lorsqu'il y a une crise liée à l'épilepsie, le patient, disons la victime, c'est le terme consacré à la Croix-Rouge, le patient ou la victime a tendance à s'agiter d'abord. Vous le verrez tomber de lui-même et en train de se battre, en train de s'agiter. Et une personne pareille, ça c'est, on conclut que c'est une crise liée à l'épilepsie. Et à ce moment-là, que faire? Il faut écarter tout ce qui présente un danger pour son organisme. C'est-à-dire que s'il y a du feu, tout ce qui est tranchant, tout ce qui peut aggraver son état de santé.
Non, il s'agite, est-ce qu'il est conscient ou il est inconscient?
Il perd, à ce moment-là, il rentre dans l'étape de l'inconscience. Lui-même ne se reconnaît pas. Et quand vous le laissez s'agiter comme ça, un moment après, vous verrez qu'il va se calmer. C'est à ce moment-là qu'on va lui donner une position que nous appelons PLS, position latérale de sécurité, pour ouvrir ses voies respiratoires, lui permettre de bien respirer.
Mais c'est comment cette position-là? Pour des gens qui sont à la maison, qui sont devant ces cas, avant que vous n'arriviez, on prend le soin de débarrasser tout ce qu'il y a autour de la personne, tout ce qui peut le mettre en danger, et jusqu'à ce que la personne se calme.
Se calme, oui.
Et on le met dans cette position. C'est quoi cette position?
C'est une position qui nous permet d'ouvrir.
Ça se présente comment?
La personne est couchée
sur le côté gauche.
Gauche ou droite. Mais alors, on met sa tête en extension.
Okay.
La tête en extension.
Oui. De manière à ce que la personne respire
bien. Et dans cette position-là, la personne qui est inconsciente ne peut jamais bouger. Et quand vous le verrez bouger, c'est-à-dire qu'il a repris conscience. Et quelqu'un qui est frappé de l'épilepsie, vous verrez que dans cette position-là, après un moment donné, de lui-même, il va commencer à vous poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il se met debout, il commence à...
Et est-ce qu'il faut l'emmener à l'hôpital quand il se calme?
En fait,
c'est des crises
crises qui passent. Souvent, on l'amène par l'hôpital, il se met debout, il reprend sa vie normale. Et c'est périodique, souvent, c'est périodique.
Ça peut arriver après...
Pratiquement, peut-être vers chaque fin du mois ou vers chaque... Ça dépend d'un
individu à l'autre. D'un patient à un autre. Ouais. Alors, urgence du quotidien, premier geste en attendant d'emmener la victime dans une structure de santé... Ou en attendant les secours, vous avez des cas concrets, fréquents, du quotidien, et pour lesquels vous souhaitez avoir des réponses de nos invités, composez le 085 42 11 547, 085 42 11 547. Nous sommes avec M. Roger Baca et M. Clément Tchota, qui sont formateurs à la Croix-Rouge RDC. Messieurs, parlons maintenant d'une autre urgence fréquente, et parfois mal géré, qui peut aussi être confondu à l'épilepsie, enfin, la crise d'asthme. Parlons de l'asthme. Elle peut être très rapide, cette crise, et angoissante aussi pour l'entourage. Comment reconnaître que la personne qui est en face de nous est dans une crise d'asthme sévère?
Oui, merci beaucoup pour la question.
Veuillez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît.
Ah, ok. Alors, je voudrais un peu revenir sur ce qu'on vient de dire là. la crise épileptique, il faut écarter les gens, parce que là, il faut dire aux gens, à la communauté, que ce n'est pas parce que la personne tombe qu'on passe le temps à filmer. Vous voyez, quand on vous demande de vous écarter, dispersez-vous, parce que l'air qu'on envoie à l'oxygène, ça peut aider la personne à se remettre. Vous voyez, dans ces cas.
Alors, parce qu'on a tendance à entourer.
À entourer,
les gens
à prendre
qui tombent,
à filmer,
ou
tout
qui
ça,
sont
tout
en
ça.
Vous voyez,
et ce n'est pas une bonne mentalité.
Oui.
Et les autres choses qui suivent là, là, nous disons que nos portes sont ouvertes. Que tout le monde apprenne le secourisme. Vous voyez, si on apprend ça, ça sera une bonne chose. Et on pourra peut-être limiter les dégâts. Autrefois, on prenait la courge comme les croque-morts. Les gens qui... Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'on est en train de sauver des vies. Vous voyez, avant même qu'on aille à l'hôpital, on est en train de porter secours. Alors, crise d'asthme, que ce soit épilepsie, il y a des antécédents. La personne est malade, elle a souffert de ça et tout ça. Nous, nous sommes dans les urgences. Ok ? Ça arrive et nous portons les gestes qui sauvent avant que on l'achemine à l'hôpital. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des infirmiers. Pour qu'on passe ce thème, nous ne sommes là. On ne donne même pas un comprimé.
Mais, juste mais il est indispensable pour les gens, pour nos auditeurs qui nous suivent, il est indispensable de savoir comment se comporter avant que les secouristes n'arrivent. C'est vrai, on va passer à la formation, mais les petits gestes qu'il faut connaître, qui sont méconnus du grand public en tout cas. Est-ce qu'il faut être de la Croix-Rouge pour porter secours à quelqu'un qui est en pleine crise?
Bon. Et la Croix-Rouge, c'est du professionnalisme.
Tout à fait, justement.
Là, ce n'est pas des aventures.
Nous sommes dans la vulgarisation.
Oui, nous sommes dans la vulgarisation. Alors là, comme je vous ai dit, le maître va peut-être me compléter. Là, s'il y a des antécédents, s'il était tombé malade, il souffrait de l'asthme, oui, il souffrait de l'asthme, il a souffert de l'épilepsie. Ça, c'est lié, c'est ça se passe. Mais nous, nous sommes dans les urgences. La situation qui arrive, comment répondre à cette situation avant qu'on arrive à l'hôpital.
Tout à fait.
Voyez. Donc nous sommes en train de mener cette toile. Avec l'épilepsie, on a dit, est-ce que vous avez suivi le maître, il a dit qu'on va donner une réponse là-bas, on va soigner?
Non. On va stabiliser la personne.
Oui, on les laisse d'abord faire et puis après, on observe, on écarte les gens et l'oxygène arrive et la personne peut se remettre pendant ce temps-là, en attendant qu'on puisse l'évacuer vers la structure sanitaire.
Mais on reviendra sur l'asthme, mais par rapport à l'épilepsie, puisque vous en parlez, il existe aussi d'autres crises qui peuvent ressembler à une crise d'épilepsie.
Oui,
on a vu des gens convulsés, par exemple, après une prise de médicaments ou après une injection, sans être reposés et qui convulsent. Ou des convulsions dues à une forte fièvre, une forte malaria. Est-ce que vous n'êtes pas médecin, vous l'avez dit?
Non, on n'est pas médecin, même pas infirmier. Parce que...
Mais vous savez comment porter secours? Comment on sait que, bon, voilà, cette personne est dans une crise ou réagit, elle réagit à un médicament, à une injection ou à une fièvre, surtout chez les enfants, ça arrive souvent.
S'il y a une réaction allergique contre un médicament, ou notre comportement serait tourné vers l'acheminement de la victime vers le centre de prise en charge. Donc,
mais en attendant, il faut s'assurer que la personne est stabilisée. Comme vous l'avez dit, la personne doit se calmer.
Cela est provoqué par un médicament.
Un médicament, oui.
Nous devons rapidement l'acheminer.
Mais si le centre de santé est éloigné, s'il y a des problèmes d'embouteillage,
c'est cela aussi la difficulté. Mais on va dans le centre le plus proche. Le plus proche.
Ok, parlons de l'asthme maintenant.
Oui, maintenant, j'ai dit, là, vous êtes calme, parce qu'il n'y a rien. Mais s'il y avait quelque chose, on devait voir comment vous agitez, comment vous convulsez, tout ça. Alors, le problème, c'est que, est-ce qu'il y a un antécédent, comme a dit le maître? Est-ce qu'il a été, il a pris des médicaments? Vous voyez, quand on remarque qu'il est dans un environnement, parce que nous, quand nous enlevons, nous évaluons d'abord où est la personne. Vous voyez? Alors, il est dans quel état? Quel est l'environnement? C'est là qu'on peut analyser. Voilà, et lui est dans tel environnement, c'est qu'il a pris les médicaments. Voilà la situation qu'il fait. Alors, parfois, le médecin dit, reposez-vous et il va se remettre. Vous voyez? Donc nous sommes là pour accompagner. Les gestes, les transports aussi, c'est un geste qui sauve. Vous voyez? C'est un geste qui sauve. Alors, le cas que vous avez posé, le cas de l'asthme, la personne est en train de respirer rapidement, tout ça, tout ça. On sait que nous, c'est l'observation, et puis chercher à conduire à l'hôpital le plus proche.
Mmh.
Oui.
Mon ton son, notre votre l'heure.
Le français parlons-en, c'est tous les samedis à 13h05. Rediffusion dimanche à 6h30, lundi à 14h20 et 20h15 sur Radio Okapi.
Parlons français. Le français, parlons-en.
Le français, parlons-en. Un programme de Radio Okapi coproduit avec l'ambassade de France en RDC et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le français, parlons-en. Une autre façon d'apprendre et de parler le français.
Urgence du quotidien, premier geste en attendant d'emmener la victime dans une structure de santé ou en attendant les secours comme la Croix-Rouge hein, qui est avec nous dans ces studios. Vous avez des cas, chers auditeurs, des cas concrets, fréquents du quotidien pour lesquels vous souhaitez avoir des réponses de nos invités. Composez les 0-85-42-11-547. 0-85-42-11-547. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur notre page Facebook Okapi Service. Alors, quelqu'un est en pleine crise d'asthme. On parlait de l'épilepsie. Revenons sur l'asthme. Comment on reconnaît que la personne est en train de faire une crise? Qu'est-ce qu'on fait? On l'emmène directement à l'hôpital? On cherche un endroit aéré. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit quand on est face à cette crise-là sévère?
Oui, c'est ce que je venais de dire. C'est comme si vous ne poussez plus à parler de... C'est une maladie, c'est un antécédent qui est arrivé. Nous faisons l'évaluation. On observe.
Je suis maman, je suis à la maison.
Oui, oui, oui.
J'ai un enfant qui est en pleine crise. Je fais quoi? Je ne suis pas secouriste. Je fais quoi? Comment je me comporte?
Vous savez, il y a des cas sur lesquels nous intervenons. Il y a d'autres cas que nous devons...
Je ne fais pas appel à la Croix-Rouge. Qu'est-ce que la Croix-Rouge me conseille? Qu'est-ce que les secouristes que j'appelle au téléphone me disent de faire en attendant qu'ils arrivent ou en attendant que j'emmène mon enfant à l'hôpital?
Souvent, quand on fait cette crise-là d'asthme, c'est lié à la respiration.
Oui.
La victime ou la patiente ou le patient respire difficilement. Et il a tendance, si on est dans une pièce, il a tendance à être au grand air, à l'extérieur, pour pouvoir bien respirer. Et même si vous sortez avec lui, vous trouverez toujours qu'il a des difficultés de la respiration. Donc, des cas comme ça, il faut avoir le conseil auprès de personnel de santé.
Ok, donc l'enfant respire mal. Je l'emmène directement à l'hôpital.
Auprès de personnel de santé.
Il n'y a rien à faire entre temps.
Il n'y a rien à faire parce que le secouriste, lui, quand on parle des gestes, ce sont des gestes simples et manuels. Et voyez, le premier que vous touchez, c'est un problème de santé, d'une maladie. Or, le secouriste n'a pas tous les atouts pour aller traiter une maladie quelconque. On se limite à dans des conseils. On va vous demander d'aller vite, ne pas perdre le temps, aller voir le personnel de santé.
Et est-ce qu'il n'y a pas de position pendant les transports? Comment on organise le transport d'une personne qui est dans cet état-là pour atteindre une structure médicale? Est-ce qu'il n'y a pas de position à éviter, par exemple?
Il y a des positions à éviter. Vous savez que la plupart des gens perdent la vie suite à un mauvais transport. Les gens perdent la vie. Il y a des manières appropriées pour pouvoir transporter tel ou tel autre cas.
Et quelles sont ces manières? Je suis avec mon enfant qui est en train de faire une crise d'asthme. Je le mets dans un taxi, puisque l'ambulance, c'est pas évident.
Madame Jocelyne,
pour tout le monde. Donc, je le mets dans un taxi. Quelles précautions je prends pour le préserver?
L'enfant, en fait, il va rester couché, étalé sur vos genoux, au lieu de le maître assis, puis tout ça. Ou bien être assis alors, d'une manière...
à dégager les poumons.
Nous appelons ça semi-assise. D'une manière à poitrine un peu dégagée et le voie respiratoire un peu dégagé là.
C'est un peu dans comme ce que vous avez dit pour le cas de la crise d'épilepsie.
Exact.
Chercher à ce que la personne respire bien.
À ce moment-là, il va se débrouiller à respirer pour qu'il ne soit pas tellement asphyxié. Voilà, chemin faisant, et voilà.
Nous avons un auditeur en ligne, Mugisho Innocent, qui nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour à vous. Il n'est plus en ligne. Est-ce qu'il est là? S'il est là, qu'il active son micro. Monsieur Mugisho Innocent, vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Non.
Il est là.
Ouais, maintenant on vous suit. Ça va maintenant, on vous écoute.
Là, ça va, madame.
Madame la journaliste, ça va? Bonjour, monsieur Mugisho Innocent, vous êtes déjà en direct, vous pouvez prendre la parole.
En fait, merci beaucoup, chemin faisant. Je disais merci, madame la journaliste, merci aux invités, la présence dans les studios de la radio de la paix, la radio Capi. En fait, je vais m'attarder sur ce qui est de l'épilepsie, puisque en suivant les invités, j'ai peut-être quelques questions que je peux avoir à poser, auxquelles j'aimerais en fait avoir un éclaircissement quant à ça. Alors, je m'en vais tout droit au but, n'est-ce pas? La première question. En parlant de l'épilepsie, quelles sont en tout cas les mesures en termes de premier secours quand une fois la personne est frappée de l'épilepsie, une fois tombée en fait? Quels sont en tout cas les premiers gestes en dehors de ce que l'invité au studio a su bien soulever? La deuxième question. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de pouvoir raconter à une personne atteinte ou soit frappée de l'épilepsie une fois tombée en termes de crise? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de pouvoir, n'est-ce pas, raconter à cette personne-là tout ce qui s'est passé? Ne voyez-vous pas que cela peut peut-être avoir un impact sur sa psychologie? Je pense que c'est complètement ces comportements-là paraît provocateur, n'est-ce pas? Ça peut provoquer, ça peut avoir en effet un impact sur sa psychologie. Une fois la personne repenser à ça, n'est-ce pas, que ça va peut-être lui donner, n'est-ce pas, des comportements qui vont peut-être aggraver encore la situation. Alors, la troisième question, y a-t-il pas de mesures préventives quant à ça, en termes de prévention de cette maladie? Et la quatrième, l'environnement favorise-t-il également, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'environnement peut favoriser également la crise de l'épilepsie? Et pour chiter, pour laisser la place aux autres, la dernière question, je voudrais demander aux invités là au studio, si peut-être, quelles sont les recommandations, qu'est-ce qu'ils peuvent conseiller au gouvernement congolais dans ce qui est de la prise en charge de ces personnes qui présentent, n'est-ce pas, ces signes, ces comportements? Merci beaucoup.
Merci à vous, Mugisho Innocent, depuis Kinshasa. Merci de nous avoir appelé, Monsieur Roger Baka.
Oui.
Et Monsieur Clément Chota,
oui,
qui répond à Innocent en premier. Il veut un récapitulatif de gestes dont vous avez parlé en cas de crise d'épilepsie. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, vous avez dit qu'il ne faut pas entourer la victime par une foule, par une masse. Il faut laisser l'air circuler autour de la personne. Qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter pour que M. Innocent puisse mieux nous saisir?
Bon, merci d'abord à M. Innocent pour sa question. Une question qui a pratiquement 5 volets. Il veut d'abord avoir les mesures à prendre en vue de sécuriser davantage quelqu'un qui fait la crise d'épilepsie. tel que nous l'avons dit ça au début, la première des choses, quand quelqu'un fait la crise d'épilepsie, il faut le laisser faire sa crise. Mais ce que vous devez prendre comme mesure, c'est d'éviter tout ce qui présente un danger autour de son rayon-là.
Ça peut être une table.
Des objets tranchants, du feu, de l'eau, tout ça, vous écartez, vous lui laissez le terrain libre. Et il va piquer sa crise, pendant un moment donné, il va se calmer. Et lorsqu'il va se calmer, qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être desserrer, si les habits qui sont trop serrés sur son corps, vous les desserrez, ça lui permet d'avoir de l'oxygène, de bien respirer et mettre dans une autre position. Position latérale de sécurité. Et vous laissez cette victime calmement, vous le verrez au bout de 10-15 minutes, elle va se relever de lui-même.
Et est-ce qu'il faut le relater tout ce qui vient de se passer
c'est qu'il faut, sa crise? Vous allez le traumatiser encore davantage parce qu'il est déjà malade. Et dès qu'il fait, vous allez dire qu'on vous a vu, vous étiez en train de baver, vous étiez en train de faire. Vous voyez que ça.
Ça affecte vraiment, moralement.
Vraiment. Ça, ce sont des choses, d'une manière psychologique, ce sont des choses qu'il faut éviter.
Est-ce qu'il y a des mesures préventives? Là, c'est carrément adressé à des médecins. Est-ce
mais tout à fait.
En tant que formateur.
Tout à fait. Le maître a dit des mesures préventives. Il a brossé les tableaux. Vous avez vu tout ça autour de ça. Il faut écarter tous les dangers. Desserrer les habits après tout ça. Mais j'insiste que nous ne sommes pas de médecins ni des infirmiers.
Donc nous, s'il faut des mesures, là, il faut s'adresser aux médecins. Mais est-ce que l'environnement peut aussi favoriser ces crises?
Oui, il dit que l'environnement, ça peut favoriser parce qu'il a parlé d'écarter tous les dangers autour. Les feux, par exemple. Dans sa crise, il peut aller toucher le feu, soit tomber dans l'eau, soit tout ça.
Mais est-ce quand la personne malade vit dans un environnement où il y a trop de poussière, par exemple, où il y a une usine qui produit, par exemple, je sais pas, du ciment, de la farine, est-ce que cet environnement-là favorise aussi des crises d'épilepsie?
La personne travaille dedans
ou vit, vit dans un quartier où il n'y a pas assez d'air, il n'y a pas d'arbres, il y a des usines à côté. Est-ce que dans cet environnement-là, on peut fréquemment faire des crises d'épilepsie?
Ça, c'est peut-être le médecin qui peut vous répondre à ça. Ça, c'est dû à une maladie. Et là, l'environnement, j'ai dit, ça renforce peut-être. C'est pourquoi nous prenons ces mesures-là pour écarter tout ce qui est autour de lui, qui peut encore chercher à...
Nous pouvons aussi toucher l'environnement familial, par exemple. Parce qu'il y a certaines familles qui ne tolèrent pas les gens qui ont de l'épilepsie. Ils pensent que c'est une maladie qui est contagieuse.
Non, mais quand la personne, le malade est dans cette famille-là, est-ce qu'on va dire, par exemple, dans cette maison, éviter la poussière, nettoyer bien la maison, éviter ceci, faites attention aux draps du malade, il faut changer fréquemment, est-ce qu'il y a des précautions comme ça?
Des fois, on ne l'approche pas. On pense que sa maladie-là est contagieuse.
Mais non, mais si c'est votre enfant, vous faites comment? Vous faites comment pour tenir votre maison si vous avez un enfant épileptique?
C'est pour dire que la maladie n'est pas dangereuse, n'est pas contagieuse. Donc, il faut l'approcher comme tout enfant, mais prendre des dispositions pour qu'il ne puisse pas aller tomber à un milieu qui pouvait affecter davantage son état de santé.
Avant le coup de fil de Innocent,
s'il vous plaît. La cinquième question, il a dit si peut-être.
Recommandations.
Et là, il n'a pas complété. Si peut-être, quelles sont les recommandations?
Au gouvernement.
Au gouvernement.
En tant que sécuriste, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Nous, nous sommes auxiliaires du pouvoir public. Nous pouvons aller demander que les pouvoirs publics s'occupent, que les pouvoirs publics puissent aider la Croix-Rouge à sensibiliser, à former des gens sur les gestes qui sauvent. Là, ça peut sauver les gens.
Alors, avant le coup de fil de Mungisho Innocent, on parlait de l'asthme, on parlait de crise d'asthme, des attitudes à afficher face à une crise d'asthme sévère. Alors, pendant la stabilisation, pendant qu'on emmène la victime ou le patient dans un centre de santé, parce que c'est ce que M. Clément a recommandé. Est-ce qu'il faut faire marcher la victime? Est-ce qu'il faut le laisser marcher seul, laisser immobile, porté? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'emmener dans la voiture ou dans l'ambulance?
Une victime, un malade qui respire difficilement. La faire marcher davantage, ce sera encore aggraver
la situation.
Donc, il faut trouver de bonnes conditions de transport pour qu'il arrive à l'hôpital dans un état où il peut être récupérable.
Alors, il y a des malades d'asthme. Je ne sais pas si à votre niveau, vous pouvez répondre à cette question, étant donné que vous n'êtes pas médecin. Il y a des malades d'asthme qui, en cas de crise, utilisent la ventoline pour leur permettre de calmer la crise. Mais il peut y arriver que la personne fasse une crise alors qu'elle n'a pas son médicament à côté. Comment on fait pour calmer? C'est parce que ça calme la crise.
Là, vous entrez dans les soins curatifs.
Et
parle de la crise parce que c'est quand il y a crise qu'on cherche.
Lorsqu'il y a crise, moi, en tant que membre de la Croix-Rouge,
secouriste. En tant que secouriste.
Mon rôle se limite à vous conseiller comment faire.
Voilà. Mais comment on
fait? Mais maintenant, lorsque nous entrons dans le produit pharmaceutique, à ce moment-là, je m'écarte de...
D'accord. On va passer à d'autres cas. On va parler de cas d'accidents, de circulation très fréquents dans notre environnement, accidents de moto, de voiture, de bus ou de camion. Quelle doit être la première réaction sur les lieux d'un accident?
La première réaction, en tant que professionnel, c'est d'arriver, de faire l'évaluation.
On se met dans la peau du monsieur lambda.
Tout à fait.
Donc, parce que là, imaginez que Jean-Claude Tiala, qui est à la technique, se trouve dans une situation où il y a accident de moto. Il n'est pas secouriste, il n'est pas de la Croix-Rouge. Quelle attitude vous lui conseillez de prendre?
Ce que j'ai dit. Parce que les gens, nous, les secouristes, ils sont beaucoup, ils sont les gens. Dans des situations pareilles, il ne manque pas un secouriste qui pourra arriver là-bas. Je donne le cas qui m'est arrivé sur 7e rue. Il y a un compatriote motard qui s'est cassé le fémur. Alors, il y avait un agent qui était là, qui le tirait comme ça, parce que c'était une fracture ouverte, où les os étaient comme ça. Alors, il le tirait comme ça. Alors, j'étais sur le bus, je suis descendu. Parce qu'il criait. Alors, le monsieur lui dit, tais-toi, je vous t'amène à l'hôpital. Dans quel état? J'étais obligé de descendre, je suis descendu, j'ai appelé deux personnes, j'ai dit à l'autre, tu tiens là-bas, on s'est servi de l'autre jambe qui était bonne, comme à terre, on l'a connu jusqu'à l'hôpital Bondeko. Et c'est la position là, jusqu'aujourd'hui, les messieurs continuent à m'appeler, dit papa, merci beaucoup, sans vous, je ne serais pas ce que je suis. Donc, il faut vraiment apprendre les techniques, comment conduire quelqu'un, si on a les transports, à l'hôpital. Parce que n'oubliez pas que notre mission se commence... au lieu d'accident, et ça se termine là où il y a l'infirmier.
Et s'il m'arrive à moi, journaliste, pas secouriste, s'il m'arrive en sortant d'ici d'être face à un cas d'accident de moto, qu'est-ce que vous me conseillez de faire avant que vous n'arriviez? Qu'est-ce que je fais pour porter secours à la personne qui est en détresse
et... La première des choses, c'est de garder votre calme.
Ok.
Parce que lorsque vous êtes paniqué, vous ne saurez même pas vous approchez de la victime. Et quand vous avez gardé votre calme, vous vous approchez de la victime, vous lui parlez. Si elle parle, ça veut dire que cette victime est consciente. Ok? Et il peut vous dire où est-ce qu'il a mal. Et directement, vous allez poser votre geste à l'endroit qu'il vous a indiqué. Si c'était une fracture, vous allez...
Et si la personne est inconsciente?
La mission devient un peu compliquée. Maintenant, c'est vous qui allez maintenant évaluer, qui allez chercher à connaître qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc, vous devez faire l'examen de la victime, de la tête aux pieds.
Lui parler.
Il ne parle pas maintenant.
Qu'il réagisse.
Vous attendez peut-être. De réaction. Quand vous aurez palper à un endroit où il a très
s'il
mal,
réagit.
Vous le verrez, oui. On peut bouger, et à ce moment vous dites, ça doit être ici.
Et dans tous les cas, s'organiser pour atteindre un centre de santé ou chercher à faire appel aux secouristes qui peuvent prendre la victime dans des bonnes conditions.
Au fait, avec cette foule-là, on peut l'organiser pour vous aider à acheminer. Si, du moins, le centre est proche. Si c'est loin, avec la police qu'on sort, on peut trouver un autre moyen de transport pour acheminer vers l'hôpital.
On a d'autres auditeurs en ligne. Platini Mbombo nous appelle depuis Mbandaka. Bonjour.
Je salue l'invité. Merci de m'avoir associé à ces débats. Je pense que j'ai bien suivi l'invité comme il a vous m'a évoqué. Et moi, je ne sais pas trop de kilométrique parce que c'est un cas aussi on a eu à connaître chaque fois dans la ville de Mbandaka ou moi-même. J'étais quelque part, j'ai connu quelqu'un tombe à l'âme sur place. Il était sur un taxi vélo. Et sur place, tombe malade. Et aux alentours, il n'y a pas un poste, de santé, hôpital, etc. Aide de santé, il n'y en a pas. Mais au milieu ruraux, la personne qui habite là, et maman qui est sortie, il a recouru au niveau de médicaments traditionnels. Donc, il a denté au niveau du village, cherché un peu de feuilles, etc., tout ça. Il a fait démontrer aux gens. Et la personne s'est un peu se réveillée. Et la personne au milieu raconte la personne en question, ramène au niveau de l'hôpital. Alors moi, je voudrais justement poser la question au niveau de l'invité, sur le plan technique, parce que c'est un cas souvent, on raconte au cours de la route, on raconte dans les milieux, etc. Parce qu'ici, dans la ville de Mbandaka, oui, j'ai dit que la Croix-Rouge existe. Mais la Croix-Rouge existe, mais n'est pas visible partout à travers la ville de Mbandaka. Et si je peux vous dire, aller trop loin, il y a aussi des quartiers qui sont au milieu périphérique de la ville de Mbandaka. Si quelqu'un tombe madame, fait crise au cou, là où il est, et aux alentours, 100 mètres, il n'y a pas un poste de santé, il n'y a pas un médecin, il n'y a pas les hommes, ce qu'on appelle les bénévoles, donc le Croix-Rouge, etc., tout ça. Maintenant, au milieu urbain, la population qui s'entoure, quels sont les médicaments en première nécessité, quoi, comme je vais vous dire, en première nécessité, pour la réussite de cette personne, à l'entendant qu'on prend la personne, on l'amène au niveau de l'hôpital général. Alors, je voudrais vraiment que l'invité puisse nous rester sur le plan technique. Le technique. Donc, nous voudrions qu'on voit quels sont les médicaments à première nécessité avant qu'on puisse l'amener au niveau de l'hôpital général ou soit l'amener là où il peut prendre les soins. Voilà ce que je voudrais avoir un peu l'éclaircissement autour de ça.
Merci Platini Mbombo, mais nos invités ne sont pas médecins. On va plutôt parler des gestes, de l'attitude à prendre avant d'emmener la personne dans un centre de santé. Mais prenons d'abord aussi le coup de fil de Moukeba, qui nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour.
Oui,
vous êtes déjà en direct, vous pouvez prendre la parole.
Ah, mais oui, c'est moi.
On vous écoute. Vous êtes en direct.
Merci beaucoup, c'est moi, monsieur Damitel. Moi, j'ai une petite question simplement. Je dis ceci. Est-ce que l'épilepsie, à l'hôpital, ça termine, ça pourra en faire? Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui souffrent de ça, ils fréquentent les hôpitaux, mais jusque-là, ça n'y prend pas fait. Il souffre toujours. C'est ça la question que je demande.
Merci.
Est-ce qu'à l'hôpital, on termine ça pour dire bon, que l'homme reste vraiment calme et sans problème encore.
Merci beaucoup. Oui.
C'est cette question que je voulais savoir.
Merci beaucoup, monsieur Moukeba. Alors, monsieur Roger, monsieur Clément, peut-être pour info, on peut répondre à nos invités, même si on s'étend pas. Bon. On peut quand même répondre. Est-ce que ça se soigne? Est-ce que, bon, on vit avec toute la vie? Quels sont les gestes pour Platini Mbombo? En tout cas, on parle pas de médicaments parce qu'ici on parle de gestes en attendant d'emmener la victime à l'hôpital ou en attendant que les secours arrivent sur place. Alors, comment vous répondez à nos auditeurs?
Okay, commençons avec Platini Mbombo qui nous a parlé de maman qui a soigné d'une manière indigène, tout ça, tout ça. Bon, nous lui demanderons.
De manière traditionnelle, en fait.
Parce qu'il. Excusez-moi. Bon, ici, nous lui demanderons de s'approcher auprès des personnels soignants. Ils peuvent lui donner ce qui peut constituer une trousse familiale où il aura le nécessaire s'il veut avoir prévenir quoi. Comme ça, on va lui donner la liste, on va lister les produits qu'il peut avoir dans sa pharmacie familiale. Je pense que c'est la seule réponse que nous pouvons donner à notre ami Dembandaka.
Moukeba
de Lubumbashi voulait savoir si
on peut
les
guérir
hôpitaux
des...
arrivent à guérir l'épilepsie. Bon, moi, nous ne sommes pas les soins de santé. Nous sommes dans la prévention. Ici, il peut mener auprès des hôpitaux qui traitent, il peut mener ses enquêtes là-bas. Je pense que c'est là.
Merci beaucoup, Monsieur Clément, Monsieur Roger. Une autre urgence,
je voudrais ajouter à ce que oui, parce que les gens confondent beaucoup. Nous sommes les premiers maillons dans la chaîne de santé. Vous voyez, c'est pourquoi quand nous posons les gestes qui sauvent, nous orientons vers les structures sanitaires. Mais dire que les médicaments traditionnels, tout ça, ça, c'est...
Ou à la maison, c'est... qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, il faut juste, si on veut, enfin, depuis le début, si je retiens ce que vous dites, c'est il faut chercher à stabiliser,
la personne
qui est en détresse et s'adresser
aux structures sanitaires appropriées, les gens qui peuvent soigner, tout ça.
Alors, on va passer à un autre cas d'urgence, une urgence où chaque minute compte. C'est la crise d'AVC, on en parle de plus en plus... ces derniers temps. Quels sont les signes d'alerte simples d'AVC? On est au bureau, quelqu'un est en pleine crise, comment on reconnaît? On est à la maison, on est à l'église. Quels sont les signes qui doivent nous alerter? Monsieur Clément.
AVC, c'est facile, ça alerte, parce que vous lisez le physique. Vous trouverez quelqu'un, tel que nous sommes en train de nous entretenir, vous voyez que ma bouche est en train d'aller vers un seul côté. Ou mon œil est tel.
Alors que quelques secondes avant, c'était pas le cas.
Ou le bras, voilà. Ça, ce sont des signes annonciateurs de l'AVC.
Maux de tête aussi, ou quelqu'un qui tient un discours qui n'est pas cohérent. Est-ce que c'est aussi un signe?
Discours non cohérent, ça tient à l'état de choc. L'état de choc.
Oui, mais c'est plus...
L'AVC, c'est plus une déformation.
Physique, on le voit, on voit que...
On observe, on voit que, voilà, son bras, voilà...
Ça commence à pencher, ça commence à aller d'un côté.
À ce moment, on se dit, voilà, il y a un problème.
Et que faire dans ce cas, quand on constate cela? Comment on réagit? Parce qu'on peut être paniqué.
Mais je vous ai interdit de paniquer.
Il a évoqué quelque chose.
Restez
calme. Il ne faut pas paniquer.
Non, il ne faut pas paniquer. Et c'est pourquoi le maître dit qu'il faut rester là. Il faut avoir le sang-froid. Vous voyez?
Gardez
votre calme, sang-froid. Vous agissez posément et vous allez... Et comme le maître a dit, vous voyez, outre ce qu'il a dit là, vous pouvez demander à la personne. Vous pouvez soulever les bras. Les membres supérieurs. S'il n'arrive pas à soulever, ce sont des signes. Ils font il a fait l'AVC. Vous voyez? Et nous avons dit, si l'AVC, s'il est dans l'inconscience et qu'il parle, il respire, là, l'alternative, c'est nous plaçons en position latérale de sécurité. Mais lorsque la personne ne respire pas ou ne respire pas trop bien, c'est là où on va appliquer la respiration cardio-pulmonaire. Ce n'est pas donné à n'importe qui de le faire. Il faut vraiment faut apprendre pour arriver à faire ce genre de travail.
En appelant les secours, ils peuvent aussi nous orienter, dire exercer une pression à tel endroit pour maintenir la personne en vie.
Lorsqu'il y a une crise d'AVC qui s'annonce, directement il faut acheminer.
Il faut acheminer, oui.
Pendant qu'on emmène la personne à l'hôpital, que si on ne le place pas justement, on la place pas dans une position confortable, que finalement le pire ne peut pas arriver?
Je vous l'ai dit au départ ici, que la manière de transporter peut
ça
aussi...
Ça compte
beaucoup.
L'idéal, c'est dans une voiture.
Dans une voiture
bien placée. Et aujourd'hui, c'est plus la moto qu'on utilise à Kinshasa. Comment on va faire?
Alors, avec cette moto-là, estimez que vous avez quelqu'un qu'il y a une fracture et qu'on va prendre sur une moto pour l'amener à un hôpital qui a une certaine distance. Ne trouvez-vous pas que cette fracture va encore s'aggraver?
Aggraver la situation. Donc l'idéal, c'est de l'emmener, de le prendre dans une voiture.
Dans une voiture où il est bien placé, bien couché. Et
oui, voilà. Oui. Alors, on va rappeler notre numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent poser des questions à nos invités. 085 42 11 547. Si vous avez des questions à poser, des cas concrets fréquents que vous avez vécu ou que vous connaissez. Alors, maître, c'est comme ça qu'on va vous appeler parce que vous êtes formateur. Alors, on parle aussi de crise cardiaque. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce qu'on doit s'adresser à vous ou à des cardiologues carrément? Est-ce qu'on peut faire une différence entre les deux? Non, la personne est décédée d'une crise cardiaque. Il a fait une crise cardiaque au travail et tout ça. Oui.
Ok. La crise cardiaque, c'est lorsque la personne n'arrive plus à respirer normalement. Son cœur ne bat plus au rythme normal. À ce moment-là, cette personne qui tombe, il tombe dans cette crise-là, est qualifiée d'avoir été décédée d'une crise cardiaque.
Ok. Et c'est différent de... De l'AVC.
Oui, c'est différent de l'AVC. AVC, l'homme respire normalement, mais c'est son corps qui est en train de se déformer. Il est incapable de bouger toutes les parties de son corps. Tandis que crise cardiaque, c'est de l'intérieur. Alors, il a un problème dans la circulation, dans le battement. Son cœur ne fonctionne plus comme il faut.
En pleine crise d'AVC, il y a des gens qui soutiennent qu'on peut prendre une limonade froide, une boisson fraîche, se faire piquer quelque part. Est-ce que vous en savez quelque chose? Est-ce que ce sont des gestes à adopter aussi pour baisser la tension?
C'est un conseil que nous n'oserons jamais donner.
Adopter ça, nous avons une ligne directrice. Je vous ai parlé ici de notre président national qui se bat bec et ongle pour que les formateurs soient au summum, soit au même standard que tous les formateurs internationaux. Là, ce n'est pas dans notre mandat.
Ok.
Ce n'est pas dans notre mandat.
Donc, vous ne savez pas vous prononcer là-dessus.
Non, on se limite seulement. On
se limite.
Mais ça peut être, ça peut constituer des gestes qui sauvent. Hein. Quelqu'un qui est en pleine crise, on dit de prendre une bouteille d'eau fraîche. Est-ce que c'est d'ailleurs conseillé de prendre de l'eau dans des telles situations?
Non.
Est-ce que l'eau peut aggraver la situation?
Si quelqu'un fait la diarrhée ou bien vomit, lui demander de prendre de l'eau. C'est normal.
C'est normal. Oui. Mais en cas de convulsion,
en cas d'AVC.
Non.
Et là, il faut acheminer, amener à qui des droits.
On va terminer par ce cas aussi. C'est une situation critique, surtout en milieu rural et même dans les grandes villes.
Oui.
La noyade dans les différents cours d'eau, à la rivière, au fleuve, dans une piscine, pour ce qui est de grandes villes. Que faire dès que la victime est sortie de l'eau? Si on arrive quand même à sortir la victime de l'eau, qu'est-ce qu'on fait après?
Et la noyade, ça fait partie des détresses respiratoires. Ok. Là, c'est l'appareil respiratoire qui est, il y a gêne à ce niveau-là. Dans la respiration normale, nous inspirons l'air, l'oxygène, l'azote, tout ça. Et ça va dans les bronches, les poumons et puis les sacs pulmonaires. Et maintenant là, il y a l'eau qui obstrue les voies respiratoires. Il n'y a pas seulement l'eau, il y a aussi les objets qui peuvent obstruer. Là, on parle de étouffement. Et il y a l'air aussi. Si ici, on forme tous les clean, tout ça, et rien, pas d'issue, nous serons obligés de dégager, parce que nous sommes en train de dégager les CO2. Alors, il faut qu'on soit dehors pour qu'on puisse récupérer l'oxygène. Alors, dans le cas où il y a une noyade, madame, vous devez retenir, dans la noyade, ce n'est pas seulement se verser dans un cours d'eau ou dans un bassin de natation. Non, même de l'eau ici, un liquide, même des petites quantités, quand vous prenez ça, et ça prend une autre direction, ça, c'est la noyade. OK? Donc, ici, nous, ce qu'on doit faire dans les cours d'eau,
gardez toujours votre sang-froid, comme a dit le maître. Et puis cherchez, attendre d'abord la perche. Parce que nous devons prévenir nos communautés. Dès qu'ils voyagent, qu'ils préparent les bidons fermés, qu'ils préparent les bouées de sauvetage.
Les cordes.
Parce que là, on peut lancer et la personne récupère.
Retirer la personne.
Vous voyez. Et dès que toutes les tentatives, on a essayé de les secourir, il est dehors. C'est là où on va chercher à le placer dans une position telle que couché ventral. Chercher à mettre quelque chose sous ici même
les habits. Sur le ventre.
Oui, oui, couché sur le ventre. Quelque chose sous le ventre, ça fait une pression. Et surveiller les voies respiratoires, de telle sorte qu'il n'aspire pas du sable et qu'il respire, et qu'il n'avale pas les vomissures. Vous voyez, l'eau va continuer à couler, va sortir petit à petit avec cette pression-là. Dès qu'il sort, on sait qu'il a passé tout le temps dans l'eau. Chercher à réchauffer les extrémités et puis chercher à le placer dans une situation confortable avant de la cheminer à l'hôpital.
Donc on sort la victime de l'eau.
On sort la victime de l'eau.
On la place sur son ventre,
oui. Un obstacle est là qui peut faire pression au ventre. Et là, l'eau sort par les voies, par les narines.
Il ne faut pas exercer la pression.
Non. Vous le faites seulement coucher comme ça. Et ça va sortir. Donc, là, en tout cas, jusqu'à ce que la victime vous sentirez que ça va. Lui-même, quand vous verrez, il a repris, il va ouvrir les yeux, vous demander où tout ça, et commencer à placer dans.
Et malgré ça, même si la victime reprenait conscience, est-ce qu'elle doit quand même se rendre à l'hôpital? Parce qu'elle a eu du mal à respirer pendant un moment, elle n'a pas reçu d'oxygène. Est-ce que vous conseillez quand même à cette personne de se rendre dans un centre de santé?
Tout à fait, madame. Tout à fait. Parce que nous, le point final, le finish, c'est l'hôpital. Je vous ai dit, si nous sommes les premiers membres dans la chaîne de santé, tout ce que nous faisons, on achemine à l'hôpital. C'est pour nous voir toujours les centres de santé les plus proches pour acheminer.
C'est là où il va subir un contrôle.
Un contrôle
pour qu'on sache comment, à quel niveau l'eau a atteint.
Alors, on revient sur un cas. Là, c'est une question qui nous vient d'un auditeur. On veut porter secours à quelqu'un qui a connu un accident de route et tout, mais on se rend compte que la personne est ivre mort. On fait comment? La personne est en état d'ivresse. Voilà. On fait comment?
Il cherche des questions qui vont dans les extrêmes.
Non.
Est la personne sur la route. Il faut d'abord dégager la personne de la route. Sur la route.
Quel que soit son état. État d'ivresse ou état.
C'est une personne. C'est une personne. Il faut la dégager. Vous la mettez quelque part à l'abri et au besoin, la mettre en position latérale de sécurité. Dans cette position-là, même s'il arrivait qu'elle puisse vomir, il ne va plus réavaler les vomissures.
Ça va couler, que de la poussière.
Parce qu'il y a une main qui protège et ça va couler tout ça. Et vous verrez que ça va prendre son temps, à un moment donné, lui-même va se reconnaître qu'il est à l'état d'ivresse.
Alors, quelles sont les erreurs qui reviennent le plus souvent que vous connaissez dans des cas ou dans toutes les situations qu'on a citées? Quelles sont les erreurs qui reviennent souvent et que nous devons éviter?
Désolé, je prends un cas, dans le cas des hémorragies par exemple. Oui. Quand vous demandez à toute personne, qu'il soit médicale ou non, on vous demande il y a combien de sortes de personnes, et combien d'hémorragies, ils disent deux sortes d'hémorragies. Mais la troisième là, c'est une exclusivité de la croix rouge. L'hémorragie extériorisée. Voyez, le sang coule pas à travers les orifices naturels. Maintenant, chez nous, dans les savoirs endogènes, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un, le sang coule par les nez?
On est vraiment à la fin de l'émission.
On fait comme ça, on rentre. Mais alors que, c'est pas...
On aura certainement une autre occasion, parce qu'il y a tellement de choses.
Il y a tellement de gens qui posent des questions.
À dire, en tout cas, dans les urgences du quotidien, l'essentiel est de savoir agir rapidement et correctement en attendant d'emmener la victime dans une structure de santé.
Exactement.
Monsieur Clément et monsieur Roger Baca, monsieur Clément Chota, monsieur Roger Baca, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir répondu à nos questions.